Cinquième soirée, nous lisons dans le prophète Daniel, le chapitre 2. Et en la seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar songea des songes, et son esprit fut agité, et son sommeil le quitta. Et le roi commanda d'appeler les devins, et les enchanteurs, et les magiciens, et les chaldéens, pour exposer au roi ses songes. Et ils vinrent et se tinrent devant le roi. Et le roi leur dit, « J'ai songé un songe, et mon esprit est agité pour connaître le songe. » Et les Chaldéens dirent au roi en syriaque, « Ô roi, vis à jamais, dis le songe à tes serviteurs, et nous en indiquerons l'interprétation. » Le roi répondit et dit aux Chaldéens, « La chose est par moi prononcée, si vous ne me faites pas connaître le songe et son interprétation, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en tas d'immondices. Mais si vous indiquez le songe et son interprétation, vous recevrez de ma part des dons et des présents et de grands honneurs. » Indiquez-moi donc le songe et son interprétation. Ils répondirent pour la seconde fois et dirent, que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous en indiquerons l'interprétation. Le roi répondit et dit, je sais très certainement que vous voulez gagner du temps parce que vous voyez que la chose est par moi prononcée. Or, si vous ne me faites pas connaître le songe, il y a un seul et même décret pour vous, car vous avez préparé une parole mensongère et perverse pour la dire devant moi en attendant que le temps ait changé. C'est pourquoi dites-moi le songe et je saurai que vous pouvez m'en indiquer l'interprétation. Les Chaldéens répondirent devant le roi et dirent, il n'existe pas un homme sur la terre qui puisse indiquer la chose que le roi demande. C'est pourquoi aucun roi, quelque grand et puissant qu'il fût, n'a demandé chose pareille d'aucun devin ou enchanteur ou chaldéen. Et la chose que le roi demande est difficile, et il n'existe personne qui puisse l'indiquer devant le roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas avec la chair. À cause de cela, le roi s'irrita et se mit dans une très grande colère et commanda de détruire tous les sages de Babylone. Et un décret fut promulgué portant que les sages fussent tués, et on chercha Daniel et ses compagnons pour les tuer. Alors Daniel répondit avec prudence et avec sens à Arioch, chef des gardes du roi, qui était sorti pour tuer les sages de Babylone. Il répondit et dit à Arioch, le grand officier du roi, « Pourquoi ce décret est-il si rigoureux de par le roi ?» Alors Arioch fit connaître la chose à Daniel. Et Daniel entra et demanda au roi de lui accorder du temps pour indiquer au roi l'interprétation. Alors Daniel s'en alla à sa maison et fit connaître la chose à Hanania, Misaël et Azaria, ses compagnons, pour implorer de la part du Dieu des cieux ses compassions au sujet de ce secret, afin que Daniel et ses compagnons ne fussent pas détruits avec le reste des sages de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision de la nuit. Alors Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel répondit et dit, « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité, car la sagesse et la puissance sont à lui, et c'est lui qui change les temps et les saisons, qui dépose les rois et établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui connaissent l'intelligence. » C'est lui qui révèle les choses profondes et secrètes. Il sait ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure auprès de lui. Toi, Dieu de mes pères, Je te célèbre et je te loue parce que tu m'as donné sagesse et puissance et que maintenant tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, nous ayant fait connaître la chose que réclame le roi. C'est pourquoi Daniel entra auprès d'Arioc que le roi avait établi pour détruire les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi. « Ne détruis pas les sages de Babylone, conduis-moi devant le roi et j'indiquerai au roi l'interprétation. » Alors Arioc fit entrer Daniel en hâte devant le roi et lui parla ainsi. « J'ai trouvé un homme des fils de la captivité de Juda qui fera connaître au roi l'interprétation. » Le roi répondit et dit à Daniel, dont le nom est Belteshazzar, « Peux-tu me faire connaître le songe que j'ai vu et son interprétation ?» Daniel répondit devant le roi et dit, « Le secret que le roi demande, les sages, les enchanteurs, les devins, les augures n'ont pu l'indiquer au roi, mais il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les secrets et fait savoir au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera à la fin des jours. Ton songe et les visions de ta tête sur ton lit, les voici. Toi, ô roi, tes pensées sur ton lit sont montées dans ton esprit, ce qui doit arriver ci-après, et celui qui révèle les secrets te fait savoir ce qui va arriver. Et quant à moi, ce n'est pas par quelque sagesse qui soit en moi plus qu'en tous les vivants que ce secret m'a été révélé. C'est afin que l'interprétation soit connue du roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Toi, ô roi, tu voyais et voici une grande statue. Cette statue était grande et sa splendeur extraordinaire. Elle se tint devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras d'argent, son ventre et ses cuisses d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu vis jusqu'à ce qu'une pierre se détachât sans main, et elle frappa la statue dans ses pieds de fer et d'argile et les broya. Alors furent broyés ensemble le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or. Et ils devinrent comme la balle de l'air d'été. Et le vent les emporta, et il ne se trouva aucun lieu pour eux. Et la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne qui remplit toute la terre. C'est là le songe, et nous en dirons l'interprétation devant le roi. Toi, ô roi, tu es le roi des rois, auquel le Dieu des cieux a donné le royaume, la puissance et la force et la gloire. Et partout où habitent les fils des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux des cieux, il les a mis entre tes mains, et t'a fait dominer sur eux tous. Toi, tu es cette tête d'or, et après toi s'élèvera un autre royaume inférieur à toi, puis un troisième et autre royaume des reins qui dominera sur toute la terre, et le quatrième royaume sera fort comme le fer. De même que le fer broie et écrase tout, et que le fer brise toutes ces choses, il broiera et brisera, et selon que tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, le royaume sera divisé, et il y aura en lui de la dureté du fer, selon que tu as vu le fer mêlé avec de l'argile grasse. Et quant à ce que les orteils des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, le royaume sera en partie fort et sera en partie fragile. Et selon que tu as vu le fer mêlé avec de l'argile grasse, Ils se mêleront à la semence des hommes, mais ils n'adhéreront pas l'un à l'autre, de même que le fer ne se mêle pas avec l'argile. Et dans les jours de ces rois, le Dieu des cieux établira un royaume qui ne sera jamais détruit. Et ce royaume ne passera point à un autre peuple. Il broiera et détruira tous ces royaumes, mais lui, il subsistera à toujours. Selon que tu as vu que de la montagne, la pierre s'est détachée sans main, et qu'elle a broyé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or, le grand Dieu fait connaître au roi ce qui arrivera ci-après, et le songe est certain, et son interprétation est sûre. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel et commanda de lui présenter une offrande et des parfums. Le roi répondit et dit à Daniel, « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois et le révélateur des secrets, puisque tu as pu révéler ce secret. » Alors le roi éleva Daniel en dignité et lui fit beaucoup de grands dons et l'établit gouverneur sur toute la province de Babylone et grand intendant de tous les sages de Babylone. Et Daniel fit une demande au roi qui établit Shadrach, Meshach et Abednego sur les services de la province de Babylone et Daniel se tenait à la porte du roi. Progrès du mal sur la terre. Nous avons parlé jusqu'ici de l'union de Christ et de l'Église qui lui est semblable, de la venue de Christ proprement dite et de la résurrection de l'Église par laquelle elle a part à cette gloire de Christ comme co-héritière. Le sujet qui va nous occuper ce soir n'est pas si plein de joie et de bonheur, mais il faut que nous connaissions bien le témoignage que Dieu rend de la malice de l'homme. J'espère, chers amis, que la conséquence en sera de nous rendre sérieux. La vue des progrès du mal et du jugement qu'il attire a pour effet d'abord de nous faire éviter ce mal, puis de nous convaincre de la puissance de Dieu qui seul peut l'ôter. Prenez garde de ne pas mépriser celui qui vous parle, etc. Hébreux, chapitre 12, versets 25 à 29. Voilà la pensée de l'apôtre sur le grand changement qui aura lieu quand la puissance du mal sera renversée. Ce que j'ai à vous présenter ce soir tend à vous montrer ceci, qu'au lieu de pouvoir espérer un progrès continu du bien, nous devons attendre au contraire un progrès du mal. Et que l'espérance que la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel avant l'exercice de son jugement et la consommation de ce jugement sur la terre est une fausse espérance. Nous avons à attendre le mal jusqu'à ce qu'il devienne si flagrant qu'il faudra que le Seigneur le juge. Premièrement, je vous montrerai que le Nouveau Testament nous présente constamment le mal comme allant en croissant jusqu'à la fin et que Satan l'augmentera jusqu'à ce que le Seigneur détruise son pouvoir. Secondement, je tâcherai de vous montrer le caractère que revêtira le mal comme puissance extérieure. En d'autres termes, ce que j'ai à dire revient à ces deux points. Premier point, l'apostasie qui a lieu dans la chrétienté même. Second point, la formation, la chute et la ruine de la puissance mondaine de l'Antichrist dans le sens d'une puissance visible. Je commence par Matthieu chapitre 13, verset 36, qui est la parabole de l'ivraie. Vous savez qu'elle nous présente cette circonstance que pendant que les hommes dormaient, l'ennemi a semé l'ivraie dans le champ du père de famille et que, sur la demande des serviteurs, si l'ivraie doit être arrachée, il leur est répondu que non, que le bon grain et l'ivraie doivent croître ensemble jusqu'à la moisson. C'est donc la sentence du Seigneur que le mal que Satan a fait dans le champ où la bonne semence de la parole a été semée y demeure et mûrisse jusqu'à la fin. C'est une déclaration expresse que les efforts des chrétiens n'aboutiront pas à ôter le mal jusqu'à ce jour du jugement. Laissez-les croître ensemble jusqu'à la moisson. La moisson, c'est la fin de cet âge, c'est-à-dire de l'économie actuelle. Ce qui agit maintenant dans le règne de Dieu, c'est la grâce et non pas le jugement. Nous n'avons point à juger le monde, lors même que nous pouvons dire d'un tel « c'est un enfant de Satan », il est par là même hors de notre juridiction. C'est de l'ivraie, c'est avec la grâce que j'ai affaire, c'est-à-dire je ne puis pas toucher au mal que Satan a produit, mais je puis agir comme instrument de la grâce, car Dieu nous permet de semer du bon grain. L'ivraie, ce ne sont pas simplement des hommes méchants, des païens, ces derniers n'ont pas été semés parmi le bon grain. L'ivraie, c'est quelque chose de mal qui a été fait par l'ennemi après que Jésus-Christ eut semé le bon froment. Ce que je puis appeler hérésie, corruption de la vérité, restera donc jusqu'à la moisson. Le mal que Satan a produit par la religion corrompue subsistera jusqu'à la fin. Tous nos efforts doivent tendre non à ôter l'ivraie, mais à recueillir les enfants de Dieu, à rassembler les co-héritiers de Jésus-Christ. 1 Timothée, chapitre 4, verset 1. L'Esprit dit expressément que dans les temps à venir, il y en a qui déserteront la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de diseurs de mensonges. On ne doit pas s'attendre au progrès de l'Évangile proprement dit. Il pourra y en avoir, et il y en aura autant qu'il sera nécessaire pour le rassemblement des membres de la famille de Dieu. Mais ce que nous devons attendre, c'est ce qui est renfermé dans ces paroles comme tableau des derniers temps. Il y en a qui déserteront la foi. Comparé de Pierre, chapitre 2, versets 1 à 3. 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5. Or, sache qu'au dernier jour, il surviendra des temps fâcheux. Est-ce que nous devons nous en tenir à ce que disent les hommes? Non, mais à ce que dit Dieu. Voyez le langage que tient Jérémie à Hanania. Jérémie 28, versets 6 et suivants. Et ce qu'il faut répondre quand on vient nous dire que la connaissance de l'Éternel remplira la terre comme les eaux le fond de la mer. Je crois sans doute que la connaissance de l'Éternel remplira la terre, mais ce n'est pas là la question. La question est comment cela s'accomplira-t-il? Par des jugements de Dieu. C'est quand les jugements seront sur la terre que les habitants du monde apprendront la justice. Revenons à notre passage. Les hommes seront idolâtres d'eux-mêmes. Ce ne sont pas les païens, ce sont les chrétiens de nom, car il est dit, ils ont l'apparence de la piété, mais qui en ont renié la force. Les caractères qu'indique l'apôtre sont ceux des païens, tels qu'ils sont dépeints dans le plus bas degré de leur avilissement au commencement de l'Épître aux Romains, et peu à peu dans les mêmes termes. Il est ajouté concernant ces hommes des derniers temps, ils iront en empirant. Nous voyons la même attente du mal dans 2 Timothée, chapitre 4, versets 1 à 4. « Je te somme devant Dieu, etc. » C'est une chose à remarquer que l'ivraie était déjà semée du vivant même des apôtres. Et c'est très heureux pour nous. Si cela était arrivé plus tard, nous n'aurions pas eu le témoignage de la parole à cet égard pour nous en avertir et nous diriger quand ces événements fâcheux seraient arrivés, pour nous communiquer la parfaite lumière de Dieu sur cet état de choses. 1 Pierre, chapitre 4, verset 17. Car il est temps que le jugement commence par la maison de Dieu. Comparez ces paroles avec Actes, chapitre 20, verset 28 à 31. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi surveillant pour paître l'Église de Dieu qu'il a acquise par le sang de son propre Fils. Car je sais qu'après mon départ, il entrera parmi vous des loups redoutables qui n'épargneront point le troupeau et que d'entre vous-mêmes s'élèveront des hommes qui diront des choses perverties pour entraîner les disciples après eux. Ces choses commencèrent du vivant des apôtres. 1 Jean chapitre 2 verset 18. On voit par ce passage que les derniers temps signifient non pas le temps de Jésus-Christ, mais le temps de l'Antichrist. Il y avait des précurseurs du grand Antichrist. Ce qui caractérise les derniers temps, ce n'est pas l'Évangile répandu sur toute la terre, mais la présence de l'Antichrist. Jude, nous avons dans cet épître un traité tout particulier sur l'apostasie et, dans le verset 4, une description succincte de son caractère. L'apôtre annonce qu'il a été nécessaire d'exhorter les croyants à combattre pour ce qu'ils avaient déjà reçu, que parmi eux se glissaient déjà dans ces temps-là des gens qui étaient des fauteurs de l'apostasie. Et cela doit continuer jusqu'au jugement de Jésus-Christ. Car nous voyons qu'après avoir décrit leur caractère plus en détail, il ajoute, verset 15, que c'est cette classe même qui doit être l'objet du jugement du Seigneur quand il reviendra. C'est-à-dire que le mal qui s'est manifesté dans l'Église dès le commencement doit durer jusqu'à la venue de Christ. Dans le verset 11, nous avons les trois sortes d'apostasie réunies dans ces hommes, l'apostasie naturelle, l'apostasie ecclésiastique et la révolte ouverte sur laquelle tombera le jugement. Nous voyons premièrement le caractère de Caïn, apostasie de la nature, haine, injustice. Secondement, le caractère de Balaam, enseignement de mauvaises choses pour une récompense. C'est une apostasie ecclésiastique. Et troisièmement, le caractère de Corée, c'est-à-dire de celui qui s'est élevé contre les droits de la sacrificature et de la royauté. De la royauté de Christ dans les types de Moïse et d'Aaron. Hélas, ce qui rassemblera le monde, ce n'est pas l'Évangile, c'est le mal. Et je vis sortir de la gueule du dragon et de la bouche du faux prophète trois esprits immondes. Apocalypse, chapitre 16, versets 13 à 14. Mais nous dira-t-on, on voit que la puissance extérieure de la chrétienté corrompue a disparu et l'on prétend que la destruction de son influence donnera place à l'Évangile. Mais l'Esprit dit, les 10 cornes, c'est-à-dire rois, que tu as vus sur la bête, c'est-à-dire empire romain, ce sont ceux qui haïront la prostituée, c'est-à-dire la puissance ecclésiastique, et la rendront déserte et nue, et mangeront ses chairs, et la consumeront dans le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et de donner leur royaume à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Apocalypse 17, versets 16 et 17. Voilà ce que les chrétiens désireraient, la destruction de l'influence de la prostituée sur le monde. Mais quand même sa puissance extérieure sera détruite, les royaumes seront-ils donnés à Jésus-Christ? Au contraire, Les rois donneront leur puissance à la bête. Longtemps, la prostituée a dominé la bête. Enfin, sa domination et ses richesses lui seront ôtées, mais seulement pour que les 10 cornes donnent leur puissance à la bête et que toute incertitude soit dissipée et que sa volonté et son caractère blasphématoire soient pleinement manifestés dans sa dernière apostasie. C'est la puissance de corruption et de séduction qui cédera le pas à la puissance de rébellion ouverte contre Dieu. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 à 12. Ce jour ne viendra pas avant que la révolte soit arrivée, et qu'ait été révélé l'homme de péché, le fils de la perdition, celui qui s'oppose et qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu. Voilà donc ce qui doit arriver avant que le jour du Seigneur vienne. Il faut prendre les choses comme la parole de Dieu les dit. Les chrétiens, ayant vu dans l'Écriture la promesse que la terre doit être remplie de la connaissance de l'Éternel, ont dit « Eh bien, nous la remplirons », tandis que, dans l'Écriture, cet événement est attribué à la gloire de Christ. Le souffle de sa bouche, par lequel le Seigneur détruira l'inique, n'est pas l'Évangile, mais la force et la puissance du jugement de Christ. Voyez Ésaïe 11, verset 4. Il fera mourir le méchant par l'esprit de ses lèvres. Ésaïe 30, verset 33. En soufflant, il allume le jugement. Nous verrons que cet Antichrist réunira les caractères de méchanceté qui ont paru dès le commencement. Premièrement, l'homme a voulu faire sa propre volonté. Secondement, s'exalter comme Dieu. Troisièmement, il s'est mis sous la conduite de Satan. Eh bien, ce sont les 3 choses que nous verrons se reproduire dans l'Antichrist. Toute l'énergie de l'homme s'exaltant contre Dieu sous la forme de l'Empire romain ou quatrième bête. C'est le fruit mûri du cœur humain qui est lui-même un antichrist. Vous savez qu'il y a eu 3 bêtes successives, l'Empire de Babylone, puis l'Empire des Perses, puis l'Empire des Grecs ou d'Alexandre spécialement, et que la 4e est l'Empire romain, mais ce dernier a un caractère tout à fait à part. Au commencement, ou plutôt avant le commencement de ces 4 monarchies, vous savez que le trône de Dieu était sur la terre à Jérusalem. Au-dessus de l'arche où était sa loi, dans son temple, l'Éternel manifestait sa présence d'une manière sensible. Eh bien, au commencement de la période actuelle, qui est celle des gentils, le trône de l'Éternel a été ôté de Jérusalem. Vous trouvez cela décrit très clairement dans les chapitres 1 à 11 du prophète Ézéchiel. La gloire de l'Éternel que le prophète avait vue près du fleuve Kébar au premier chapitre, il la voit partir de Jérusalem au 11e de la maison, chapitre 10, versets 18 et 19, de la ville, chapitre 11, verset 23. C'est un fait très remarquable que la gloire de l'Éternel a quitté son trône terrestre. De plus, au même instant, cette puissance terrestre a été transportée de Jérusalem aux gentils, gouvernement des hommes. C'est ce que nous voyons dans Daniel, chapitre 2, versets 36 à 38. Roi, voilà ton songe. Je dirai aussi devant toi son interprétation. Tu es le roi des rois, et le Dieu du ciel t'a donné le royaume et la force et l'empire et la gloire. Vous voyez que, par la destruction du dernier roi des Juifs, la domination humaine a passé aux gentils dans la personne de Nebuchadnetsar. Ce roi a commencé par établir la fausse religion par la force. Il a fait une statue pour que tout le monde l'adorât. Et il s'est enorgueilli, et voilà pourquoi il a été comme une bête pendant 7 ans, C'est-à-dire qu'au lieu de se tenir comme un homme humblement devant Dieu, comme devant celui qui lui avait donné la puissance d'un côté, il s'est exalté lui-même et de l'autre, il s'est mis à ravager le monde pour satisfaire sa volonté. Omettant la seconde et la troisième monarchie, qui n'ont pas pour nous dans ce moment une importance aussi directe, et poursuivant le caractère de la quatrième, nous y rencontrons certains traits dignes de remarque. Les Juifs sont dans un état de captivité depuis Nebuchadnezzar jusqu'à ce jour. Il est bien vrai qu'il y a eu un retour de ce peuple de la captivité, mais sans qu'il ait cessé d'être sous la puissance des gentils. Le trône de Dieu n'a nullement été rétabli, et si Dieu a permis que les Juifs rentrassent momentanément dans leur pays, c'est qu'il a voulu faire paraître son Fils au commencement de la quatrième monarchie. Et en effet, c'est au moment où la quatrième monarchie, sous sa forme impériale, était devenue la puissance universelle, c'est justement alors que le Fils de Dieu, roi des Juifs et des gentils de droit, leur a été présenté. Et qu'ont-ils fait? Ils l'ont crucifié. Des grands sacrificateurs qui étaient les représentants de la religion de la terre, selon Dieu et Ponce Pilate, celui de la puissance terrestre, se sont unis pour rejeter et mettre à mort le Fils de Dieu. Voilà la quatrième monarchie coupable d'avoir rejeté les droits du Messie. Les Juifs, comme nous le verrons plus en détail dans une autre réunion, s'il plaît à Dieu, sont mis de côté, et alors a lieu l'appel de l'Église pour les lieux célestes. Mais, quant à ce qui regarde l'économie de l'Église sur la terre, nous l'avons vu altérée par la semence du malin, et l'apostasie qui en est résultée. Nous avons vu ensuite que cette corruption fera place à une révolte plus ouverte et plus prononcée de la bête elle-même, c'est-à-dire de cette même quatrième monarchie sous une nouvelle et dernière forme encore à venir. C'est ce qui donnera lieu au jugement, Daniel chapitre 7, 9 à 11, 13 et 14. Je regardai jusqu'à ce que les trônes furent placés et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête comme une laine pure, son trône comme la flamme du feu et ses roues comme un feu ardent. Et un fleuve de feu sortait rapidement de sa face. 1000 milliers le servaient et 10 000 milliers étaient devant lui. Le jugement se tint et les livres furent ouverts. Je regardais à cause de la voix des grandes paroles que cette corne proférait et je vis que la bête fut tuée et que son corps fut déchiré et fut livré pour être dévoré par le feu. Versets 13 et 14, je regardais donc la vision de la nuit, et voici comme le Fils de l'homme qui venait sur les nuées du ciel, et il s'avança jusqu'à l'ancien des jours auquel on le présenta, et il lui donna la puissance et l'honneur et le royaume, et tous les peuples, tribus et langues le serviront. Sa puissance est une puissance éternelle qui ne sera pas transférée, et son règne ne sera point détruit. Voilà le royaume donné au Fils de l'homme lorsque la quatrième bête est détruite. Or, ce jugement et cette destruction de la quatrième monarchie ne sont pas encore arrivés. Je citerai en preuve Daniel chapitre 2, versets 34 et 35. Tu contemplais cela lorsqu'une pierre se détacha sans main de l'homme, laquelle pierre frappa la statue dans ses pieds de fer et d'argile et les brisa. Alors furent brisés en une fois le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or. Ils devinrent comme la paille d'une aire d'été, et il ne se trouva pas de lieu pour eux. Et la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et couvrit toute la terre. C'est-à-dire qu'avant que la pierre coupée sans main s'étende et remplisse toute la terre, elle détruit complètement la statue. Or, argent, airain, fer, terre sont emportés comme la paille de l'air. Eh bien, cela n'est pas le moins du monde accompli. Dans l'action de la pierre, il ne s'agit pas d'un changement du caractère de la statue, c'est un coup soudain, c'est un coup qui brise, qui détruit, qui ne laisse pas même la trace de l'existence de la statue. Comme il est dit ici, qu'il ne fut laissé aucune place pour eux. L'Empire romain, les pieds, et avec les pieds tout le reste disparaît. Par ce seul coup, tout est pulvérisé, détruit, anéanti. Et, après ce jugement, la pierre qui a frappé la statue devient une montagne qui remplit toute la terre. Chers amis, est-ce que le christianisme a frappé la quatrième monarchie quand il a commencé à s'étendre? Au contraire, l'Empire romain a continué d'exister. Il est devenu chrétien lui-même. Bien plus, les pieds de la statue n'existaient pas à cette époque. L'acte de destruction qui est signalé dans la chute de la petite pierre sur les pieds de la statue ne représente nullement la grâce de l'Évangile, n'a aucun rapport avec l'œuvre que l'Évangile accomplit. Enfin, c'est après la destruction totale de la statue que la pierre commence à grandir, c'est-à-dire que la connaissance de la gloire de l'Éternel qui doit remplir toute la terre ne commencera à se répandre qu'après que la quatrième bête aura été jugée et détruite. Reste une difficulté qui peut se présenter dans l'histoire de cette bête. On peut alléguer que l'Empire romain n'existe pas aujourd'hui. C'est une preuve de plus à l'appui de ce que nous venons de dire. Apocalypse, chapitre 17, versets 7 et 8. L'ange me dit, la bête que tu as vue a été et n'est plus. C'est-à-dire que l'Empire romain en tant qu'empire a cessé d'exister. Mais qu'est-ce qui suit? Mais elle doit remonter de l'abîme, puis être détruite. Et les habitants de la terre s'étonneront. Elle existait, puis elle n'existe plus, puis elle sortira de l'abîme. Elle aura proprement un caractère diabolique. Elle sera proprement l'expression de la puissance de Satan. Ce que nous apprenons donc en général sur le caractère de cette bête, c'est 1. Que dès son commencement, l'Empire romain a été coupable du rejet de Jésus comme roi de la terre ici-bas. 2. Que plus tard, dans cette quatrième monarchie, il y a une petite corne qui dit de grandes choses. Et enfin 3. Que cette quatrième bête, après avoir cessé d'exister pour quelque temps, sortira de l'abîme pour exister de nouveau et puis être détruite. À cause des grandes paroles de la petite corne que la petite corne profère. Cela se lit avec 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9. Et quant à l'avènement du méchant, il est, selon l'efficace de Satan, en toute puissance, en prodige et en miracle de mensonge, et sa destruction se trouve au verset 8. Il y a encore une description de la dernière tête de la bête, voir Apocalypse 17, verset 11, qui est la bête même. Daniel 11, verset 36. Le rapport entre ce passage et 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9, est reconnu. Nous y voyons la même exaltation de soi-même contre Dieu. Cette dernière épître y ajoute la force de Satan, parce que le méchant est présenté dans son caractère d'apostasie et d'iniquité. en Daniel 11 dans son caractère terrestre et royal. Quant au troisième caractère que nous avons signalé dans l'iniquité, la volonté de l'homme y apparaît clairement. Le roi fera selon sa volonté. Je désire vous faire remarquer aussi que ce qui est décrit dans Jean chapitre 5, verset 43, la nation juive recevra celui qui viendra en son propre nom. Voilà l'iniquité du cœur de l'homme parvenue à son comble dans le dernier chef de la quatrième monarchie. Ésaïe, chapitre 14, versets 13 à 15, dépeint son exaltation de lui-même sous le titre de roi de Babylone. Tu disais, ce sont exactement tous les privilèges, tous les droits de Christ que ce roi s'arroge. Je monterai aux cieux, c'est ce que Christ a fait. Je placerai mon trône au-dessus des étoiles du Dieu fort. Le trône de Christ est au-dessus des puissances. La montagne d'assignation aux côtés d'Aquilon, c'est le palais du grand roi, le roi d'Israël à Jérusalem. Christ doit venir sur les nuées, il est l'image du Dieu invisible. Cependant, on t'a fait descendre au sépulcre, au fond de l'abîme. Ce soir, j'ai heurté des idées bien chères, justement chères aux âmes fidèles. Je veux dire leur espérance que l'Évangile doit s'étendre sur toute la terre pendant l'économie actuelle. C'était à l'Église d'accomplir cette tâche, de faire retentir la proclamation de la gloire de Christ partout. Mais, de fait, en s'exprimant selon la parole, il faut le dire, nous verrons tout ce qui est efficace, tout ce qui est puissant dans ce monde, nous verrons tout cela mis en œuvre, mais sans égard à Dieu, tous les moyens de l'homme, toutes ses facultés, tous ses talents, toutes ses connaissances seront déployées, tout ce qui peut séduire le cœur et dominer l'esprit, tout ce qu'il y a de ressources dans le caractère et dans la nature de l'homme, sans aucune conscience, étonnera le monde et l'entraînera sur les traces de l'Antichrist, parce qu'on veut accomplir la gloire de l'homme, s'exalter contre Dieu et non servir Christ, ni s'humilier sous lui. Or celui qui s'élève sera abaissé. Mais, nous dira-t-on, c'est décourager toutes les entreprises que nous pourrions faire pour la propagation de l'Évangile sur la terre, si elles ne doivent aboutir qu'à un semblable résultat. Oui, si l'on conçoit de fausses espérances, on s'est déjà trompé. En effet, s'attendre à de grandes choses, c'est voir toutes ces espérances déçues, ce n'est certes pas encourageant. Il est bien vrai, néanmoins, que cette vue des progrès du mal semble offrir peu d'encouragement à nos efforts. Mais c'est parce que nos espérances ont été fondées sur nos propres pensées. Mais, dites-moi, le fait que Dieu avait dit à Noé « Je vais détruire le monde » et que Noé était pleinement convaincu que le jugement de Dieu allait bientôt venir, l'empêchait-il de prêcher à ses contemporains ? C'est précisément au contraire ce qui l'y poussait, afin de gagner ceux qui avaient des oreilles pour écouter. La conviction que le faux christianisme se montrera plus raffiné, plus corrompu dans le monde, cette conviction ne donnera que plus d'énergie et d'action à l'amour de celui qui croit, et la proximité des jugements de Dieu, au lieu de paralyser nos efforts, nous poussera aussi avec infiniment plus de force, plus de suite, plus de fidélité à présenter l'Évangile, le seul moyen de faire éviter aux hommes les justes malheurs qui les menacent. Quand je dis que l'ivraie, au lieu de diminuer, continuera de croître, est-ce à dire que le bon grain ne puisse augmenter aussi ? Nullement. Si le mal doit empirer pour le jugement, Dieu donne en même temps efficace au témoignage qui doit en séparer le bien. Je crois que c'est toujours ainsi que Dieu procède. Si nous avions vu 3000 âmes converties en un jour à Genève, on dirait « voici le millénium, l'évangile va se répandre par toute la terre ». Eh bien, il n'y en a peut-être pas 300 convertis en une année. La conversion de plusieurs milliers de personnes à Jérusalem, qu'est-ce que cet événement prouvait ? Seulement que Dieu allait juger cette ville et qu'il sauvait de la génération perverse ceux qui devaient être sauvés. Toutes les fois que nous voyons le mal croître et Dieu agir pour en retirer ceux qui croient, c'est seulement un signe que le jugement de Dieu est proche. On ne peut le nier. Dieu agit visiblement de nos jours. On doit lui en rendre grâce de tout son cœur. Et c'est ce qui me prouve encore plus que le temps approche où Dieu va retirer les siens du monde. Il y a deux signes de l'imminence du jugement. L'un, que le mal grandit, que l'impiété augmente, que toutes les ressources de l'homme se déploient d'une manière merveilleuse. L'autre, que des chrétiens se retirent de cet état de choses. Eh bien, il n'y a rien là qui doive nous empêcher de travailler à l'œuvre de Dieu. Je vois que le bien s'opère, se répand, s'étend, que Dieu sépare ses enfants du mal. Je vois d'un autre côté tous les principes du méchant se développer visiblement. Je vois dans la parole de Dieu une déclaration expresse que l'économie présente va prendre fin et le mal arriver au plus haut degré jusqu'à ce que le méchant soit détruit par l'avènement de Christ. Romains chapitre 11, verset 22. Voici, pour conclure, l'avertissement que le Seigneur nous donne. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés, bonté envers toi si tu demeures dans cette bonté, autrement toi aussi tu seras coupé. Est-ce que l'Église a répondu à cette bonté de Dieu? La chrétienté s'est complètement corrompue. Cette économie des gentils a été infidèle. Peut-elle être rétablie? Non, impossible. Comme l'économie juive a été retranchée, l'économie chrétienne le sera aussi. Que Dieu nous fasse la grâce de nous tenir fermes dans notre espérance et de nous appuyer sur sa fidélité qui ne nous manquera jamais.